Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Bonsoir tout le monde, installez-vous confortablement et savourez un thé avec nous le temps d'un échange autour d'un thé. La première émission dédiée à la parentalité en toute légèreté. Vous aurez l'occasion d'entendre Booba et Barberiche, les chroniqueurs qui aiment les thématiques sucrées et qui n'hésiteront pas avec bienveillance à mettre les deux pieds dans la tasse. Mais avant ça, je vais vous présenter les invités du jour. On va commencer par Isabelle. Isabelle qui est aide-soignante depuis plus de 23 ans, membre actif de l'appel à l'école de sa fille, présidente de la FCPE, maman de deux ados et d'une petite fille de 5 ans. Isabelle est une passionnée de la parentalité sous toutes ses formes. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
On va enchaîner avec Aouisha. Aouisha Traoré, une véritable magicienne des mots, autrice et éditrice de livres jeunesse. Elle est une véritable passionnée qui a créé sa propre boîte d'édition. En cahier de l'évasion en 2021, avec déjà 5 ouvrages à ton actif, tu es cofondatrice également d'Ode à la littérature. C'est une belle passerelle parce qu'on a la cofondatrice qui est là aussi avec toi. Maman de 3 enfants âgés de 16, 13 et 2 ans. Elle intervient également dans les écoles, les bibliothèques et les centres socioculturels. Bonsoir Aouisha.
Bonsoir.
Tu vas bien ?
Très bien, merci de nous recevoir.
On continue avec Binta. Pardon, heureusement que... Excuse-moi Fatoumata Mbinte, qui est elle une personnalité exceptionnelle dans le domaine de l'enfance. En tant qu'autrice, elle a sa propre boîte. Elle a créé Afro's Monkey. Une plateforme, la première plateforme dédiée aux enfants. Livres, jeux, tu nous en diras plus toi-même tout à l'heure, mais merci pour ta présence, comment vas-tu ?
Bonsoir, ça va, merci.
En fondant ta plateforme, tu as créé un espace unique en ligne, est-ce que tu veux nous en dire plus ?
Oui, alors bonsoir Ami, bonsoir à toutes et à tous. Donc, la boutique Afro's Monkey Kids, c'est une boutique que j'ai créée fin 2019 qui est dédiée aux enfants de 0 à 12 ans et dans lequel on peut retrouver des livres, des jeux, des poupées, des jeux d'accessoires. Et la particularité de la boutique, c'est que tous les produits ont été pensés et créés par des personnes de notre communauté parce qu'on voulait répondre à un manque de représentation de nos enfants dans les outils pédagogiques qu'ils utilisent quotidiennement. Donc chacun à sa façon et avec ses moyens, voilà, il y a des auteurs de livres, ben comme Aouisha, dont j'ai ses livres sur la boutique. Il y a des personnes qui ont créé des poupées, il y a des personnes qui ont créé des jeux de société où les enfants vont apprendre les traditions, les cultures africaines, tout en s'amusant. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de créer cet univers pour nos enfants, mais aussi, surtout, ben, pour nous, parents, quand on veut offrir... Des jeux à nos enfants, qu'on ait un endroit unique sur lequel retrouver tous ces produits.
Merci Fatoumata. Du coup, Aouisha, est-ce que tu veux bien nous parler toi aussi de ce que tu fais ?
Alors moi, je me suis lancée dans l'univers de l'édition en 2021. Donc, ce n'était pas mon premier objectif. Moi, mon souhait initial, c'était vraiment de sortir mes ouvrages. Et je me suis heurtée, comme beaucoup d'auteurs, à la difficulté de trouver une maison d'édition. Non pas que mes ouvrages ont été refusés, mais c'est que la ligne éditoriale que je recherchais, je ne la retrouvais pas en fait. Donc je me suis simplement interrogée en me demandant pourquoi ils publieraient mes livres, sachant qu'aujourd'hui ils ont la possibilité de le faire et ils ne le font pas. Donc j'ai créé Anka Élévation, qui veut dire neutre élévation, et qui prône en fait la diversité. et plus spécifiquement la représentation positive des afrodescendants. Donc, dans mes ouvrages, il n'y a pas évidemment que des afrodescendants, mais je tiens quand même à ce qu'il y ait une représentation assez importante pour proposer un équilibre en fait, dans la littérature jeunesse française, où certaines communautés sont invisibilisées. Et en parallèle, j'ai créé une autre structure en cas objectif élévation, à travers laquelle, comme tu le disais, j'interviens dans les écoles pour proposer des ouvrages au sens large, pas uniquement les ouvrages écrits ou édités par moi, pour introduire des récits et des ouvrages avec des contenus différents et des personnages différents et établir justement des débats et des interactions avec les enfants pour qu'ils voient que peu importe d'où l'on vient, nos origines, etc., on a la possibilité de produire des choses et de faire ce qu'on souhaite.
Merci Aouicha, ton parcours est très intéressant et on va voir tout à l'heure en quoi il est en lien avec notre thématique. Isabelle, est-ce que tu veux bien nous parler de toi ?
Moi, je suis une maman de 3 enfants. J'ai une ado qui a 15 ans, un fils de 13 et une fille de 5 ans. Et en fait, très tôt, je me suis sentie concernée par leur vie à l'école. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis un parent très engagé dans au sein de leurs établissements. Et pour moi, c'est très important parce que faut qu'on puisse connaître ce qui se passe à l'école pour savoir comment réagir face à nos enfants. Et souvent, en tant que parent, on n'est pas assez impliqué dans le schéma scolaire des enfants, par manque d'informations aussi, hein, parce que souvent on pense que ce n'est pas accessible à nous, on pense que c'est pour les autres, mais être parent d'élève, c'est pour tout le monde. Ça porte bien son nom, c'est parent d'élève. À partir du moment où ton enfant fait partie, tu peux te positionner et être parent d'élève. Et ça, c'est pour moi en tout cas quelque chose de très important.
Merci Isabelle. Je peux enfin vous délivrer la thématique. Est-ce que vous avez bien vos tasses de thé ? On va boire un verre ensemble et aujourd'hui, on va aborder la thématique du harcèlement scolaire. Le harcèlement fait sa rentrée. C'est un fléau dont il était important de mettre en lumière parce que trop d'enfants souffrent. Dernièrement, beaucoup d'enfants meurent et ce sont des familles qui meurent en même temps que ces enfants. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être de définir ensemble qu'est-ce que le harcèlement scolaire ? Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de harcèlement scolaire ? Qui se lance ?
Bon, je vais me lancer alors. De mon point de vue, je sais qu'il y a, il y a une définition administrative, juridique sur le harcèlement, mais de mon point de vue, le harcèlement débute à partir du moment où il y a une action répétée. Répété à plusieurs reprises envers la même personne qui a pour but d'exercer une pression ou un contrôle sur un autre enfant en fait. D'accord. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le visualise, le harcèlement.
Ouais, c'est important ce qui va compter là, plus que la définition institutionnelle que Bouba nous donnera juste après, c'est vraiment vous, ce que vous mettez derrière. Fatoumata.
Ben moi, avec tous les cas de harcèlement que j'ai pu entendre ou voir, ou même j'ai une de mes filles, Dala, qui avait eu un début d'harcèlement, et j'ai compris, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, je pense que c'est une sorte d'intolérance, en fait, que les enfants peuvent avoir entre eux, mais par manque de, pas de connaissances, mais de vision, de se dire qu'en fait, on est tous... chacun a sa singularité et qu'il faut être capable de l'accepter et de comprendre que tout le monde ne peut pas être pareil. Vraiment, pour moi, c'est vraiment c'est l'intolérance, en fait.
D'accord. Isabelle ?
Alors, pour moi, le harcèlement, je vais rejoindre un peu Aïcha, c'est vraiment tous les actes malveillants qui sont faits dans le cadre du scolaire. Tous ces actes-là, enfin, tout ce qui concerne l'école, pour moi, voilà. C'est un harcèlement scolaire du moment que c'est fait dans l'enceinte, mais tout ce qui est lié aussi, parce qu'on a aussi le cyberharcèlement avec les élèves, ça fait partie, c'est une continuité du harcèlement scolaire. À partir du moment que c'est malveillant et que c'est répétitif, c'est du harcèlement.
Est-ce que les, les mauvaises notes données par le professeur, c'est du harcèlement scolaire.
Quand elles sont dans la répétition et que tous les jours, on t'annonce un 2.
Un 2 sur 20. Ça,
oui, c'est une forme de harcèlement, mais en même temps, il faut que l'enfant se mette à la page aussi. Hein. Mais, c'est de la prévention, ça.
En tout cas, ça peut le devenir, parce que des fois, le harcèlement prend aussi naissance dans la posture de l'adulte.
Ouais.
On a tous connu les profs qui mettaient les notes dans l'ordre, avec des commentaires
c'est
devant
vrai.
Toute la classe,
c'est
et c'est à partir de là des fois aussi que ça naît. Bouba, le harcèlement pour toi d'abord et ensuite la définition.
Je vous rejoins tous, hein. Enfin tous et toutes, sur le fait que c'est des actes de violence répétés. Et ensuite, je vais donner la grande définition académique. Le harcèlement scolaire, parfois assimilé à des pratiques de caïdage, brimade ou encore bizutage, décrit des comportements de harcèlement en milieu scolaire. Il est caractérisé par l'usage répété de violences, dont des moqueries et autres humiliations.
Violence physique, verbale, le cyberharcèlement aussi, avec l'intention de nuire à l'autre. Et j'aimerais bien qu'on entende ça. C'est la répétition des violences, qu'elles soient physiques, psychiques, verbales, mais avec l'intention de nuire à l'autre. Et pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce qu'on parle de harcèlement dans la cour de maternelle, mais est-ce que les enfants en maternelle ont cette intention de nuire à l'autre ? Ah, vous y attendiez pas à cette question, hein. En toute légèreté, qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire que si on part du principe que c'est des violences répétées sur une autre personne avec l'intention de nuire, est-ce qu'un enfant de 3 ans qui se bagarre tous les jours avec la même personne a cette intention de nuire?
Si je peux répondre, ça va peut-être rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que ça soit aussi, sans rentrer dans les grandes lignes, hein, parce que vous avez chacune donné la définition, que ça soit vraiment, pour ces petits-là, c'est vraiment de l'intolérance. Je pense que c'est du fait de ne pas comprendre que dans la société, il y a d'autres enfants qui sont différents d'eux, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça rejoint aussi un peu ce que je fais avec Affreusement Kids, l'idée de justement mettre dans les outils pédagogiques de nos enfants des personnages qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et souvent, quand ils sont dans la méconnaissance, par exemple, on va prendre l'harcèlement capillaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça m'a un peu choquée.
J'ai pas de cheveux. Donc...
Mais toi, tu as dû admettre le harcèlement pour le coup.
On ne va pas t'embêter avec ça. Mais j'ai entendu dernièrement une jeune fille qui subissait de l'harcèlement capillaire, en fait. Donc, ses camarades venaient vers elle, lui toucher ses cheveux, tirer ses cheveux. « Ah, mais c'est bizarre. Tes cheveux sont bizarres. » Et je pense que ce côté-là, c'est vraiment surtout les maternelles, hein, parce qu'ils sont vraiment petits. C'est le fait qu'ils n'ont pas l'habitude, peut-être, de voir un enfant qui a cette texture de cheveux dans les livres qu'ils utilisent tous les jours, dans les contes qu'on leur raconte, à la télé. Donc, je pense que quand c'est vraiment des tout-petits, c'est plus dû à la méconnaissance et à l'intolérance du fait que tu n'es pas comme moi, donc je ne veux pas de toi.
Moi, j'aurais une autre lecture, en fait, de cette situation. C'est qu'on est peut-être dans des prémices. C'est-à-dire que quand ils sont aussi jeunes, je ne pense pas qu'il y ait cette volonté de nuire. Mais on reste quand même dans du harcèlement parce qu'il y a cette notion d'acte répété. Et je pense que si, dès le plus jeune âge, on ne réprimande pas, on ne montre pas que ce n'est pas une bonne chose, je pense que c'est ce qui fait que dans le futur, c'est répété par les enfants, du coup. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans, si durant toutes ses années de maternelle, on ne lui dit pas que ce n'est pas bien ce qu'il fait, je pense qu'il va réitérer en élémentaire.
Est-ce que du coup, on n'est pas justement dans la découverte, l'apprentissage, un enfant de 3 ans qui se bagarre tous les jours, peut-être qu'il ne gère pas sa frustration, on est plus dans les émotions, elle vient se manifester d'une façon ou d'une autre, mais du coup, Aouicha, à ton sens, auprès d'un enfant de maternelle qui serait dans des violences répétées, quelle pourrait être une des pistes à envisager ?
Alors déjà, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. Je pense effectivement que c'est difficile de poser le mot harcèlement quand c'est des enfants comme ça qui sont en bas âge, qui sont en maternelle. Mais le fait est, comme le disait Barberiche, que c'est du harcèlement. Et je pense que justement, c'est là où nous, adultes, on a un rôle à jouer, parents et enseignants et tout le corps éducatif. C'est-à-dire que c'est à nous de sensibiliser l'enfant en lui disant « attention, posez les mots en fait. Ce que tu fais, ça fait du mal ». Tout à l'heure, Bouba, tu as parlé d'humiliation. Ça, c'est important de le retenir parce que c'est ça, en fait, qui casse un enfant. et qui peut laisser des séquelles. Donc je pense que en termes d'outils, il y a des outils très très simples. Hein. Déjà la parole, communiquer avec les enfants, mais surtout par le biais de jeux de rôle. Je sais qu'il y a des maîtresses qui font beaucoup ça en classe, qui essayent de reproduire la situation inverse, c'est-à-dire moi je viens, je me moque de tes cheveux, etc. Ok, tu viens te plaindre. Dans ce cas-là, on va inverser. Un autre élève va venir se moquer de toi et tu vas dire ce que tu ressens, tu vois. Il y a des ouvrages simples, en fait, pour enfants qui existent déjà, mais il n'y en a pas assez. Mais pour sensibiliser à cette problématique-là, où quand tu te... Essayer, en fait, de créer plus d'empathie chez l'enfant et de dire, est-ce que toi, tu aimerais qu'on te traite de cette façon-là ? Je pense que c'est important et je suis d'accord, si ce n'est pas traité dès cet âge-là, je ne vois pas pourquoi l'enfant s'arrêterait en primaire, en fait. Au contraire.
Ah, ça grandit. Et Isabelle, est-ce que tu as un avis sur la question ? Parce que ce qu'on entend quand même, c'est qu'il y a l'histoire d'émotion, travailler sur les émotions, et peut-être qu'il y a une piste ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que maman, un enfant qui serait dans des cours à répétition en maternelle, contacte tout de suite d'être harceleur ? Qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les pistes que tu proposerais ?
Alors moi je pense que oui, on peut appeler ça harcèlement parce que c'est du harcèlement. Maintenant, le fait que ce soit des enfants, ils sont encore innocents. Et généralement, les enfants qui ont ces comportements-là à l'école, il faut quand même voir comment ça se passe au sein des foyers et leur environnement. Parce qu'un enfant de lui-même ne peut pas être méchant s'il n'a pas cet exemple. Les enfants qui sont en maternelle vivent par le mimétisme. Donc si chez eux, ils entendent toujours des gens se critiquer, ça va être normal. Et arriver à l'école, ben, ils vont critiquer les copains parce que pour eux, c'est normal. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là. D'où vient en fait le comportement de l'enfant vis-à-vis de ça. Et je suis tout à fait d'accord avec les intervenants précédents. C'est quelque chose qu'ils font prendre en main dès la maternelle. Expliquer la différence, la tolérance, le fait de vivre ensemble et de s'aimer chacun, ça doit être fait dès les premiers instants où les enfants sont dans leur milieu social.
Je vais vous donner quelques chiffres qui va mettre un peu tout le monde d'accord. Aujourd'hui, on estime à peu près 1 million d'enfants concernés par ce fléau. C'est énorme et c'est sous-évalué. Dans le sens où on peut comptabiliser que ceux pour qui ça a été identifié. Donc 1 million. Aujourd'hui, 1 million d'enfants, ça représente... Alors, au niveau des statistiques et des chiffres que je vais vous donner, on va commencer en primaire. C'est-à-dire que déjà, même dans la prise en compte des chiffres, on commence en primaire. Et on dit qu'en primaire, il y a déjà une moyenne de 7 enfants sur 10 à peu près, qui serait victime de moqueries à répétition. Au collège, 2 enfants par classe souffriraient de harcèlement scolaire. Et ça baisse en arrivant au lycée, où on estime à 4% le nombre d'élèves victimes de harcèlement scolaire. Donc c'est vraiment ça se traduit vraiment dans tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en dites ? Quand vous entendez ça, quelle est la pensée là, qui vous traverse chez vous, ici, là ?
C'est alarmant.
Ouais, c'est affolant, en fait.
Moi, j'enlève mes enfants de l'école direct.
Non, mais il dit ça, mais franchement, moi, limite, à un moment, ça m'a traversé l'esprit. Parce que quand on se rend compte qu'il y a autant d'enfants qui sont harcelés, 7 enfants sur 10, en fait, c'est juste affolant. Et à côté, on a une pseudo-campagne de l'État qui dit oui, on va combattre l'harcèlement et tout ça, et qu'on entend encore des cas d'enfants qui se suicident suite à l'harcèlement et que rien n'est fait. On se pose des questions, en fait. On dit, mais est-ce que je peux vraiment laisser mes enfants en toute sécurité dans cet établissement ? Est-ce que si ça lui arrive, est-ce que quelque chose va être pris en... Enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ça fait peur. On se pose des questions. Enfin, en tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions.
Ça questionne.
Et je me dis, ouais, voilà.
Et les autres ?
Moi, je l'ai dit.
Moi, c'est pour...
Elle a dit,
j'enlève mes enfants.
C'est pour ça que moi, j'encourage les parents à être représentant des parents et à se positionner là-dessus pour avoir un regard. Parce que tant qu'il n'y aura pas de parents assez nombreux pour relever ce phénomène, eh ben, ça passera comme ça passera. Donc les parents qui ont la force et le courage d'aller au bout du processus, ils arrivent à sauver parfois leurs enfants, et ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, malheureusement, ils restent sur leur faim. Donc il y en a qui déménagent, il y en a qui ne déménagent pas, ou qui laissent, le pire, parce que ça se fait, leurs enfants avec leur harceleur dans les écoles.
Moi j'ai un malheureux exemple. Là où j'ai grandi, malheureusement, on a un camarade qui s'est fait harceler de la maternelle jusqu'au collège. C'est dire, il était, je me souviens en plus à la maternelle. Des fois, on peut croire qu'on n'a pas de souvenir de la maternelle, mais moi j'en ai en fait. Et je me souviens qu'il se. Bon, après, c'est lui-même, il avait commencé par harceler à la maternelle. Bon, du coup, ça s'est retourné contre lui, mais bon. On ne guérit pas un harcèlement par un plus grand harcèlement, mais de la maternelle jusqu'au collège, je l'ai vu se faire harceler.
Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a personne qui a réagi, en fait ? Les parents, l'école
Les parents essayaient. Je pense que l'école a dû essayer aussi, mais...
Et après, les parents des harceleurs ?
Après, il y a eu une époque aussi.
Il y a combien de temps ?
Oui, dans les années 80-90.
Ouais, c'est vrai. Voilà.
C'est à quel âge, Bouba ?
J'en ai 28.
28 plus 30.
28 plus 12, plus 13.
Ouais. Voilà. Mais avant de vous poser la question que j'ai en tête, parce que je suis une gamine, ceux qui me connaissent le savent, je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Le terme, c'est harcèlement scolaire, ce qui n'enferme pas le harcèlement dans l'établissement scolaire. Il se traduit à l'école, parce que c'est l'endroit où les enfants passent le plus de temps, mais il ne prend pas forcément naissance dans l'école. Des fois, c'est au-delà. Ça peut être où, d'ailleurs ? Ça peut être où ? À part à l'école. Où est-ce que le harcèlement peut commencer et finir par se traduire dans la cour de l'école ?
Internet.
Ouais, et tout à l'heure,
les foyers.
Tu parlais de milieu social.
Ouais, les foyers, là où on habite.
Sociaux.
Le foyer où on habite.
L'environnement.
Son foyer, l'environnement. Vous avez des exemples d'endroits où ça pourrait commencer ?
Le sport.
Le sport, c'est ce que j'allais dire, activité extrascolaire.
Ouais. Les activités extrascolaires. Moi, j'aurais dit Internet, comme a dit Internet. Harcèlement.
Clairement, moi, si je me positionne par rapport à aujourd'hui, je dirais surtout les réseaux sociaux.
Sur les réseaux.
Et même en, contrairement à ce qu'on pense, même en élémentaire, surtout en élémentaire. Et ma fille est dans un collège où maintenant, à chaque rentrée scolaire, on a la direction qui nous convoque spécifiquement concernant le problème des réseaux sociaux. Parce que plus de 60% des cas, des problématiques qu'ils ont à gérer à l'enceinte de l'école, démarrent sur les téléphones en fait. Et vu que les téléphones sont interdits dans l'établissement, donc c'est lié à l'utilisation, à des conversations qui ont lieu en dehors de l'établissement. Pourtant, ça se traduit par des bagarres, des souffrances au sein de l'établissement.
Bien sûr. Est-ce que vous savez aussi que on parle des réseaux, on parle de ce qu'on publie, des fois, ce sont les parents qui postent une photo sur les réseaux ou une vidéo qu'ils trouvent marrante d'un enfant, qui est le leur d'ailleurs, sur les réseaux, et ça peut être récupéré. Est-ce que ça, vous l'aviez en tête ou pas ? Oui. Les photos qu'on poste, etc., vidéos qu'on trouve mignonnes et rigolotes, des fois, on est nous-mêmes la cause du mal de notre enfant. D'ailleurs, on parle des portables. Qui paye le portable ? Ma question. Et pourtant, je n'ai pas la chronique « On met les pieds dans la tasse », alors je ne sais pas ce qu'ils nous réservent, Bouba et Barberiche, mais est-ce qu'ici, vous, en tant qu'enfant ou adulte, parce que le harcèlement, il peut perdurer, vous avez été harceleur, harcelé ou témoin? On n'a pas le droit de mentir, parce que...
Moi, j'étais dans les trois rôles, je pense.
T'as été dans les trois rôles à tour de rôle? Ou en même temps?
Non. Peut-être à tour de rôle, parce que... En fait, il y a 20 ans, le harcèlement, il n'avait pas la même définition qu'aujourd'hui.
Ouais, okay.
Donc à 20 ans, c'était une petite moquerie qui était comme ça, on charriait quoi, on se charriait. Sauf qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ont poussé le vice et du coup, c'est beaucoup plus pervers. Okay. Donc c'est complètement différent. Donc ouais, moi, quand j'étais jeune,
des bouteilles d'eau, excusez-moi, autour d'un thé,
ça m'est déjà arrivé de moquer des autres quand j'étais enfant, ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais pas jusqu'à les faire forcément pleurer ou de genre aller m'acharner, tu vois, tout le temps sur quelqu'un.
Après, je t'en prie.
Vas-y Bouba.
Ah, non, mais je.
Barberiche, de toute façon, les deux.
Parce que lui, il sait ce que je veux dire.
C'est pour ça qu'il est pressé.
Il est pressé. Vas-y. Moi, j'étais un harceleur, moi.
Quoi
Non, mais moi, je.
Coupez. Non, mais c'est important de le dire.
Non, mais je... Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui... lorsqu'on devient adulte, on fait un peu une introspection, on fait un petit retour en arrière et on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Parce que maintenant, on a des enfants et donc, du coup, on peut transposer certaines choses. Et oui, j'ai été harceleur parce que moi, j'ai toujours été un gros vanneur. Et donc, à l'époque, même si ça existe encore, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la notion de harcèlement n'avait pas la même portée. Donc, nous, les vannes, bah, c'était un sport national. Donc,
on a connu.
Non, mais c'était un sport national. Donc, du coup, c'était à celui qui vannait le mieux. Donc, il y en avait qui étaient un peu plus chauds que d'autres, un peu plus, qui avaient un peu plus de compétences dans ce domaine. et j'en faisais partie, parce que j'étais quand même un bout en train à l'époque. Maintenant, je me suis assagé. Et donc, harceleur. Mais j'ai aussi été harcelé, mais je m'en fichais. Ça, c'est un autre profil, parce que j'ai toujours été fin. Et du coup, on s'est souvent moqué de moi par rapport à mon physique. Mais comme moi, j'étais un vanneur, bah, je répliquais tout le temps, en fait. Mais c'était une forme de harcèlement, malgré tout.
Et quand tu étais jeune, tu le vivais comme ça, tu t'en rendais compte? Parce que de dire on a été harceleur quand on est jeune, et j'ai fait exprès de poser cette question, parce que qu'on se le dise. Les adultes d'aujourd'hui, là, notre génération, on est là à crier au harcèlement scolaire, mais des fois, vu la dimension que ça a pris, on n'a même pas le temps de s'asseoir et de se dire « mais moi aussi, je l'ai été ». Et on peut accepter le fait qu'on était enfant, donc on l'a été. Est-ce qu'on l'a identifié? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que quand t'étais toi harceleur, du coup, tu savais que tu faisais mal à l'autre?
Ouais, mais quand tu le fais. Tu sais, quand t'es jeune, bête, tu te préoccupes pas du mal que tu peux faire. C'est maintenant que je m'en rends compte. Parce que à l'époque, ce que tu voulais faire, c'est amuser la galerie. C'est être reconnu, être populaire, ce genre de choses. Donc tu te rends pas forcément compte du mal que tu peux faire, mais les incidents, on les voit.
Bah, j'espère que à l'époque, il n'y avait pas les portables. J'espère que tu vas remettre la main sur ton répertoire. Tu as des excuses à présenter. Bouba, tu voulais...
C'est pour ça que quand je vais dans les centres commerciaux, je longe les murs parce que je croise beaucoup d'anciens.
On s'est harcelé.
Et qui d'autre?
En fait, quand on est jeune, on a conscience, parfois, qu'on harcèle. Après, parfois, on n'a pas conscience qu'on harcèle aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on se met à vanner... Moi, je me souviens, il y avait des sports nationaux de la vanne. On avait notre gars, Patrice Carteron, à l'époque, un grand vanneur qui l'a reconnu sur les réseaux, qu'il était harcelé quand il était jeune. Tu vois. Moi, je l'ai vu se faire harceler. Tu vois. Mais c'était un grand vanneur, donc il se protégeait par ce biais-là. Et puis, quand il est devenu boxeur, plus personne ne l'a harcelé.
Donc, dans les pistes, ouais. Attention, quand on fait de la boxe, on n'a pas le droit de boxer dans la rue.
Exactement,
hein.
C'est ça. Mais voilà, tout ça pour dire aussi qu'on n'a pas forcément conscience quand on rigole tous d'une même personne. On se rend pas compte, hein, qu'on est en train de lui faire du mal. T'sais, on est tous en train de rigoler. Moi, je m'en rends compte, même malheureusement, celui qui s'est fait harceler de la maternelle jusqu'au collège, j'ai malheureusement participé aussi, mais à moindre mesure.
Ah, parce qu'il y a de la moindre mesure dans le harcèlement, c'est important de dire ça, parce que tu vois, la victime, elle se dit pas à moindre mesure. C'est ouais. Tu lui fais du mal ou tu lui fais pas de mal?
Bon, après, on avait conscience des fois qu'on lui faisait du mal. Et parfois, on en avait.
Faites entrer l'accusé.
Voilà. C'était franchement, quand j'y repense. Hein, c'est...
Ça, c'est les témoins, en fait. Ouais.
Et le monde des enfants, il est méchant. Enfin, comment on dit, il est méchant? Ouais, il est il y a une espèce d'insensibilité, parce que tu n'as pas conscience, en fait, que tu fais du mal à autrui, tu vois.
Peut-être que tu as conscience que tu harcèles, mais tu n'as pas conscience des répercussions sur l'autre.
Je pense, c'est ça.
Quand j'étais en primaire, j'étais du côté des harceleurs, entre guillemets, sans m'en rendre compte.
J'ai fait une table sale, hein. Je sais pas si vous méritez vos tasses, hein.
Non, je vais m'expliquer, mais en fait, c'est cette jeune fille, malheureusement, je me rappellerai toute ma vie, elle était d'origine indienne, et les gens s'en prenaient à elle. Et rapidement, comme on disait, ça prend un sorte d'effet. On rentre dedans sans se rendre compte. Mais moi, personnellement, rapidement, quand j'ai vu que ça lui faisait mal, je me suis tout de suite retirée. Vraiment, j'ai dit, c'est pas possible, je suis allée m'excuser auprès d'elle. Et ce qui est important, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément d'accord quand on dit que oui, on ne se rend pas compte en fait, de ce qu'on fait, même enfant. On sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et souvent, je dis, on ne peut pas faire à quelqu'un ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, et tu l'as très bien dit avec ton camarade, je pense qu'il s'est fait harceler très longtemps. Il a dû se dire, en fait, c'est soit moi, soit eux. Et donc, il s'est mis dans cette position, entre guillemets, de harceleur, peut-être pour se protéger un peu, même si ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais ouais, moi, je vais le dire, j'ai harcelé cette jeune fille, malheureusement. Je le regrette, hein, vraiment. Et j'en ai pris rapidement compte. Mais j'ai aussi été témoin d'harcèlement. Et tout à l'heure, on en parlait. Que ce soit enfant ou adulte, hein. C'est vrai que l'harcèlement, c'était un peu tabou. C'est tabou encore aujourd'hui. On en parle, mais c'est un peu tabou. Donc, des fois, on a envie d'en parler, mais on n'ose pas en parler. On se dit, si j'en parle, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Et je pense que dans les années 80-90, ce n'était pas réellement de l'harcèlement. Parce que, comme on disait, c'était plus des vannes. Alors que maintenant, l'harcèlement, ça devient même physique. Il y a des menaces de mort. Enfin, c'est pour ça que je fais la part des choses. Pour moi, quand on était dans les années 80-90, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'harcèlement.
Ça en était clairement, mais peut-être que le degré de menace ou l'impact sur l'autre peut-être était soit amoindri, soit méconnu, soit même pas recensé parce qu'il n'y avait pas vraiment de sujet. En fait, vous voyez les films qu'on a vus, La guerre des boutons. Il y avait même un livre, je ne sais pas si vous avez connu, moi je suis de 1984, excusez-moi d'être aussi jeune. le livre Ta mère.
C'est très jeune, oui.
Vous vous souvenez du livre Ta mère qui est sorti?
Oui,
c'est quand même une tragédie, avec le recul là. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y avait un livre qu'on lisait, on apprenait les vannes pour être celui qui allait sortir la plus grosse vanne. Mais aussi celle qui colle le mieux au physique, à la personnalité de toi ou de ta mère. Hein.
J'avais appris par cœur le livre.
Ah ouais, moi aussi. Hein.
Je ne connais pas cet individu. Aouicha, Isabelle, vous avez été harceleur, harcelée, témoin?
Alors, premier cas d'harcèlement, j'étais au collège. Je me suis retrouvée convoquée chez ma principale avec une autre camarade. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là, la principale nous annonce qu'une fille qu'on côtoyait, bah du coup, ses parents l'ont changé de collège parce qu'on l'harcelait. Donc moi, je suis tombée de haut. Je me suis dit, mais comment ça? J'ai dit, non, je l'embête pas. C'était plutôt ça, le mot, tu vois. Et c'était les filles de sa classe qui l'embêtaient régulièrement, souvent. Bah, sauf que bah, nous, on était là, parce que des fois, on se voyait à la récréation et tout ça. Mais à cet âge-là, vraiment, j'avais pas vu. Et du coup, quand je me suis retrouvée devant la principale, déjà, j'avais peur parce que je me suis dit, là, elle me convoque, mais si après, elle appelle ma mère pour ça, moi, je vais me faire...
lyncher.
Ah oui, je vais me faire lyncher et très, très harceler dans l'autre sens du terme.
Et, ah oui, on n'a pas parlé des parents qui harcèlent.
Oui, ouais. Et du coup, ça m'a mis mal et je me suis dit, oh là là, et tout, je ne savais pas qu'elle, elle subissait ça, tout ça. Bref, en tout cas, cette enfant, elle a été retirée de notre collège, elle a été dans le collège plus loin, à cause des azichements des autres. Et du coup, alors, on n'a pas été sanctionnés, nous, parce que après, elle a demandé le rôle de chacun. Et vous pensez bien que moi, à cet âge-là, j'étais déjà très au clair avec l'honnêteté. Quand on m'a demandé, j'ai dit, c'est eux. Ah non. Alors là, moi, déjà, j'aimais pas les coups. Donc, je voulais pas en prendre pour les autres. Hein. Mais, donc, je dis, non, moi, je savais pas, mais c'est eux. Et c'est là où j'ai... en fait, j'avais 12 ans et c'est là où j'ai pris conscience de la responsabilité.
Ouais.
Parce qu'un adulte nous avait dit que ce qu'on faisait, c'était pas bien. Et après, cette fille, heureusement, je l'ai recroisée parce qu'on habitait dans le même quartier. Et moi, je me suis excusée parce que je suis désolée. Je savais pas que ça lui faisait de la peine. Et j'étais surtout pas au courant de tout ce qu'elle subissait quand elle était en classe. Puis après, on a discuté. Elle m'a dit, c'est pas grave. On avait 12 ans. Hein, donc, elle m'a dit, c'est pas grave et tout. Maintenant, je suis dans un autre collège. Ça se passe bien. Mais ça m'avait toujours... Ça m'a marqué.
Merci pour ça, parce que c'est important aussi, et c'est pas anodin que je vous pose la question, parce que avant même de rentrer dans les pistes, les solutions, déjà, soyons au clair sur qui nous avons été, nous, et comment on a été impacté, ou est-ce qu'on avait conscience ou pas. Donc on va entendre Aouicha aussi, mais déjà, vous avez l'air de dire dans un premier temps qu'on sait qu'on fait du mal.
Ouais.
On n'a pas forcément la mesure de l'impact, et des fois, dans l'exemple d'Isabelle, on savait même pas qu'on faisait du mal. Aouicha, fais attention parce que là, j'ai un plateau d'harceleurs.
Ça va mal finir. Moi, clairement et définitivement, j'étais harcelée.
Ok.
Voilà, donc vraiment, je suis entourée là.
T'es pas bien là. C'est pour ça que t'es...
Là, je commence.
Tu reviens un thé?
Mais ouais, bah oui, c'était vraiment des actes répétés. Mais c'est marrant parce qu'en écoutant du coup les différents anciens harceleurs, je me dis, je suis même pas convaincue, parce que moi je suis de 81, je suis même pas convaincue qu'à l'époque, c'était un garçon, c'était toujours le même d'ailleurs, qui entraînait forcément toute une flopée de garçons derrière lui, mais qui étaient derrière lui en fait, qui n'étaient jamais, c'est pas eux qui initiaient le mouvement. Je sais même pas s'ils se rendaient compte en fait de l'impact que ça avait sur moi à l'époque et que ça a eu sur moi jusqu'à présent, parce que derrière cet harcèlement-là, qui a clairement laissé des traces, il y a tout ce que j'initie aussi auprès des enfants qui, en toile de fond, je sais qu'il y a, il y a cette injustice-là que je veux réparer, et je veux aider aussi à épargner, à épargner les enfants. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit aux enfants adultes quand on parle d'harcèlement, c'est que l'enfant, on va, par exemple, ta camarade qui a changé de collège, c'est très bien, mais en fait, il y a potentiellement des traces sur l'adulte à en devenir, quoi.
Oui, clairement. Merci pour ce témoignage. Moi, en tout cas, j'ai pas été harcelée. J'ai pas harcelé, en tout cas, pas que je le sache. Même si j'avais mon caractère, par contre, j'étais un témoin actif. C'est-à-dire que, ça va avec ma personnalité. J'ai toujours ouvert ma bouche et voulu protéger la veuve et l'orphelin. Donc, en fait, si autour de moi, je le percevais, mais c'était. En le disant, je me rends compte que c'était même pas forcément pour aider l'autre. Hein. C'est parce que moi, je voulais avoir cette place-là. C'est genre, si je vois un truc, mais il faut que je le fasse savoir que c'est injuste et en plus qu'on me reconnaisse comme celle devant qui tu ne vas pas faire ça, tu vois. Donc, j'ai plutôt eu ce rôle-là. Je vous ai posé cette question pour justement bien comprendre les enjeux du harcèlement qui est multifactoriel. On l'a dit ensemble, il se traduit au sein de l'établissement scolaire. Pour autant, ce n'est pas là où il prend naissance, mais c'est là où il va s'exprimer très fort. On a parlé, par rapport à vos témoignages, de cette continuité aussi. Est-ce que quand nous, on a été harceleurs, harcelés, est-ce que ça a un impact sur nos enfants, sur l'éducation qu'on porte, le regard et comment on va résoudre les choses? Donc ça va être quelque chose aussi qui va venir dans les choses qu'on va aborder juste après, et de comprendre. Si on veut faire reculer, il va falloir comprendre. Et donc ma question qui vient maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui en France, on a des enfants qui meurent parce que leur souffrance n'est pas entendue? Quelles sont, d'après vous, les responsabilités, où sont-elles? Parce que j'aimerais bien entendre, parce qu'on entend tout le temps, c'est l'école. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà...
Ah là 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 là, la question qui tue. Ouais.
C'est quoi le problème?
Moi je dirais...
Je t'en prie.
Dans un premier temps, je dirais qu'on a trop tendance à minimiser les actes. Et en fait, à partir du moment où il y a une étincelle... Eh ben, il faut gérer l'étincelle. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le feu. Et ça, c'est ce qui se passe. Après, il faut accepter. Quand on est harceleur ou quand on est victime de ça, par exemple, on est un parent, on nous dit « Ah, mais oui, votre enfant, machin. Ah non, non, non. Ah non, non, non. » À un moment, quand il y a des preuves A plus B, ça fait mal, mais il faut se dire « Oui, ok. Aujourd'hui, ben, c'est nous qui avons merdé. » Parce que quand on a un enfant qui merde, c'est des parents aussi qui merdent, en fait. On n'est pas tout seul. Et ça, c'est important de se le dire pour qu'on puisse aller de l'avant. Si on ne fait que des constats, sans vraiment faire un état des lieux, c'est comme quand on rentre dans un appartement. Quand on rentre, s'il n'est pas bon, bah, l'état des lieux, on va écrire qu'il n'était pas bon. Si c'était propre, eh ben, on va écrire que c'était propre. Et là, quand on a le constat de cette imperfection, de cette chose qui ne va pas, en fait, il faut tout faire pour remettre les choses en ordre.
Moi, je pense que avant de répondre à ta question, je pense que déjà dans la tête des... Enfin, tout à l'heure, je parlais du fait d'avoir conscience ou pas de faire du mal à autrui. Mais je pense qu'il y a surtout ce manque d'empathie. C'est-à-dire que quand tu es jeune et que tu harcèles et que tu n'as pas forcément l'impression d'harceler ou que tu as l'impression d'harceler, en fait, on ne se met pas à la place de la personne. Enfin, en tout cas, on ne se met pas... Comment dire, on fait pas en sorte de... Comment dire, d'essayer d'éprouver ses souffrances. Tu vois. Et moi, je pense que pour faire un parallèle avec aujourd'hui aussi, la société, je crois qu'elle est socialement immature. C'est-à-dire que, surtout avant, c'est-à-dire quand je dis socialement immature, c'est-à-dire qu'avant, on laissait passer plein de choses. C'est-à-dire, que ce soit même l'inceste, toutes ces choses-là, tu vois, ça passait avant. Tu vois, il y avait plein de choses qui passaient, comme le harcèlement aussi. C'est des choses qui avant... C'est comme si on était dans une époque féodale à l'époque.
Ça
tu
forgeait.
Vois, c'est... Ouais, ça forgeait, genre tu te faisais harceler, limite, vas-y, bon, ça va te forger un peu. Et aujourd'hui, je me rends compte que la société, elle est encore immature, tu sais, par rapport, socialement immature par rapport à ce problème-là, parce que, bah, comme tu disais, où est, enfin, à qui la faute, quelque part, c'est ça ta question, mmh. À qui sont les responsables? Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, tout de suite, là, il ne faut pas minimiser le moindre acte. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement a beau dire des choses, comme dirait l'homme au béret, c'est plus des effets d'annonce. Parce qu'il n'y a vraiment rien de concret qui est mis en place. Après, il y a des choses tout de même, parce que tu me dis que... Je ne sais plus qui a dit comme quoi... Tu as dit qu'à la rentrée de ton enfant...
Ils
ont été reçus, il y a une sensibilisation, mais...
Il y a des prémices, un peu partout, des initiatives, et de plus en plus, tant mieux. Mais c'est quoi le problème, Fatou?
Moi, je ne vais blesser personne. Hein,
mais non, mais
dis. Pour moi, le problème, c'est les parents. Moi je suis catégorique avec cela parce que tout à l'heure on prenait le cas des enfants de maternelle, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Même un enfant maternel qui harcèle, généralement les professeurs vont interpeller les parents. On a déjà vu des camarades qui griffaient tout le monde et après on allait voir les parents pour dire oui, votre enfant est griffé et tout. Donc les parents sont au courant quand même de ce qui se passe. Pareil en primaire, que ce soit en primaire ou au collège, les parents sont forcément mis au courant en fait de ce qui se passe. Mais souvent, on a eu même le cas dernièrement de cette jeune fille malheureusement qui s'est suicidée. Les parents étaient au courant et les parents même étaient actifs dans le harcèlement. Et moi, je pense que c'est vraiment un problème d'éducation. C'est vraiment parce qu'à partir du moment où on vient te voir et on te dit que ton enfant agit mal, ok, on peut dire oui, c'est un enfant, il n'a pas encore toutes les capacités de distinguer le bien du mal. Mais en tant que parent, tu as l'obligation en fait de d'agir et de dire à ton enfant d'arrêter en fait. Si on vient voir on dit que ton enfant est harcèle et que tu ne lui dis rien, oui c'est pas grave, oui mais c'est des jeux d'enfants, oui mais nanana, et que ça continue et que ça fait que de monter et on arrive à un drame. Pour moi, c'est les parents. Vraiment, moi, quand j'entends il faut sanctionner, il n'y a pas que l'harceleur. Les parents doivent être sanctionnés. Le directeur qui n'a pas agi, il doit être sanctionné. L'inspection d'académie, je ne sais plus comment
l'inspection
on appelle ça.
L'inspection d'académie,
voilà. Ils sont souvent au courant et ils ne font rien. Ils doivent être sanctionnés. Et même, j'irai un peu plus loin, et même les policiers, parce que souvent, il y a des parents qui vont porter plainte et tout, et personne ne fait rien. Donc, pour moi, c'est vraiment toutes ces personnes qu'on doit englober dans ça. Il n'y a pas que le harceleur, il y a toutes ces personnes-là, pour moi, qui sont actives. En tout cas de cet harcèlement.
C'est pour ça qu'on parle de prise en charge holistique. Madame la ministre, la première ministre a pris la parole justement sur cette question-là, avec l'importance d'impliquer à toutes, dans toutes les sphères de la société, justement cette responsabilité, et que ça soit les policiers, les familles, l'établissement scolaire, mais ne serait-ce que le citoyen lambda en fait, parce que combien de fois dans la rue tu passes, tu vois des enfants chamailler, est-ce que tu t'arrêtes pour te demander ce qui se passe? J'aimerais vous faire écouter, j'ai eu au téléphone une sophrologue, Laurence Orion, qui du coup, je lui ai posé la question de l'état dans lequel les enfants arrivent, les familles, et on a échangé longuement parce que c'est une piste aussi, et j'aimerais qu'on écoute un petit peu une partie de ce que Laurence a pu nous dire. On va écouter ça ensemble, vous êtes d'accord?
Oui.
Allez vous refaire une tasse de thé à la maison, on écoute.
Ce que j'identifie, c'est que la plupart du temps, lorsque ces enfants arrivent dans mon cabinet, eh bien, ils ont déjà beaucoup de symptômes, hein, tels que le stress, les angoisses, le manque de confiance en soi, une image vraiment très mauvaise d'eux-mêmes, hein, parce qu'en fait, la plupart du temps, ces enfants ne se sont pas confiés ni au personnel scolaire, ni à leurs parents, parce qu'ils ont peur, en fait. Donc, généralement, ils ont laissé s'installer des symptômes qui sont vraiment très désagréables pour eux. Et souvent, eh bien, ils développent une phobie scolaire. Et c'est à ce moment-là que les parents viennent me consulter.
On va passer à la deuxième partie, en tout cas de cet échange, de ce temps d'échange, place au témoignage, pour qu'ensuite, concrètement, on puisse se questionner sur la responsabilité, on l'a dit, elle est partagée. Elle prend essence au sein des familles parce que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et ensuite, elle est sur plusieurs niveaux, à des degrés différents. Aoucha, j'aimerais que tu fasses part de ton témoignage en tant que maman d'un enfant qui a été victime de harcèlement. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ?
Oui, bien sûr, parce que justement, ça rejoint la totalité des propos qui ont été tenus ici. Donc moi, mon fils aujourd'hui est au lycée, hein, il a 16 ans. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, quand on parle d'harcèlement d'une manière générale ou qu'on regarde des reportages, etc., on voit que c'est indélébile, en fait. Donc ça a commencé quand il était en CE2. On habitait à Créteil. Et la particularité, c'est qu'on l'a su vraiment, genre, 5 mois après, quoi. Et on l'a su par hasard, surtout. On l'a su par hasard. Et j'oublierai jamais, en fait, la décontraction avec laquelle la directrice du centre de loisirs me l'a annoncé. En fait, j'étais venue chercher mon fils et elle me dit « Ah, mais votre fils, c'est... il arrive parce qu'on lui a mis ses baskets dans les toilettes. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, d'ailleurs... il y a quelques mois, je ne vous avais pas croisé, mais il était là-bas en train de pleurer. » Et en fait, elle me dit ça. Alors, elle me dit « Mais vous n'êtes pas au courant ?» Je lui dis « Non, je ne suis pas au courant. » Et je lui dis « Mais l'épisode, parce que moi, déjà, imaginez mon fils en train de pleurer il y a quelques mois, je ne suis pas au courant. » Enfin, je n'ai pas compris. Donc, elle m'explique que oui, il y a un groupe de filles de CM2 qui s'en prend régulièrement à mon fils et qu'elle pensait que nous étions au courant. Donc, il y a 10 000 choses qui nous passent par l'esprit. Je questionne mon fils. Non, il n'y a rien, etc. Bon, il finit par parler. J'en apprends, plus les minutes passent, plus j'apprends en fait l'ampleur de la situation. Je décide de faire un mail qui récapitule en fait l'ensemble des événements que mon fils me cite, en pointant bien du doigt que ce n'est pas de la responsabilité de mon fils de me dire qu'il est harcelé, mais bien de la responsabilité de l'établissement, qui a priori est au courant parce que, justement, la directrice du centre de loisirs m'en parle. Ce que j'oublierai pas, c'est... en fait, l'enfant harcelé à ce moment-là m'est apparu comme un... C'est un numéro, en fait, parmi tant d'autres. « Non, mais ça va, il va bien, votre fils. » Donc, j'en parle à l'enseignant. « Non, mais oui, mais bon, c'est des moqueries. » En fait, peu importe la porte à laquelle je frappais, ça a été minimisé. Donc, à un moment, je me suis dit « Ok, on va identifier, dis-moi laquelle c'est. » Et moi, j'avais besoin aussi de comprendre, parce qu'on est des parents qui communiquent énormément, mon mari et moi, avec nos enfants, comment il a pu nous cacher ça pendant des mois. Et là, il m'explique que la seule pression qu'il avait sur lui, c'était « si tu le dis à tes parents, on va dire que ta maman est une P ». Donc pour lui, c'était impossible en fait, de se livrer parce que ma réputation, mon honneur était en jeu. Il avait à peine 7 ans et demi. Je vais voir la directrice qui m'explique que malheureusement, la chef de bande, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sort du lot dans un groupe, elle est identifiée, que je n'ai pas à m'inquiéter, que cette personne-là ne va plus croiser mon fils. Ok, comment ? On l'empêche d'aller... elle mange dans mon bureau le midi. Donc la directrice décide qu'elle va rester dans son bureau le midi et qu'elle est interdite de récréation. Je lui dis donc, moi, je vais être responsable d'enfermer une gamine parce que moi, mon objectif, c'était pas que de résoudre le problème pour mon fils, c'est de s'occuper de cet enfant aussi. Je lui dis, non, mais en fait, je ne suis pas d'accord. J'aimerais rencontrer ses parents. Oui, mais on les appelle, ils ne répondent pas. Tout à l'heure, Fatoumata parlait justement de la responsabilité des parents. Je lui dis, OK. Donc, je me suis dit, la solution qui a été trouvée, c'est celle-là. Moi, j'estime que mon fils n'a pas eu justice. J'ai pris ma voiture, j'ai été au commissariat. J'ai donné les noms de l'établissement, de la directrice, des animateurs, de la directrice et de toutes les filles du groupe. Et j'ai envoyé une copie à la directrice en mettant « pour information, copie à l'académie ». À l'époque, je ne faisais pas la différence entre académie et rectorat, donc c'était académie et rectorat. Et j'apprends, parce que là, je rejoins ce que disait Isabelle sur l'importance d'être impliquée dans l'école et dans les associations de parents d'élèves. Je ne savais pas, en fait, que quand ton enfant est harcelé hors temps scolaire, ce n'est pas de la responsabilité de l'école, c'est de la responsabilité de la municipalité. Donc, je contacte monsieur le maire de Créteil, et j'explique en fait la situation de mon enfant, mais en fait, on dirait que au moment où j'ai compris en fait que cette situation d'harcèlement, tous les autres dysfonctionnements liés à cette école me sont apparus. Et je me suis dit, bah, ok, je vais en profiter pour dire que il y a des animateurs qui ne font pas le job, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de bibliothèque, etc., etc. Je contacte l'association de parents d'élèves, portée par une femme courageuse, mais à l'époque je ne le savais pas, qui était quasiment toute seule. Et je lui dis, écoute, je lui explique la situation, j'explique que j'ai besoin de soutien. Elle a pris peur, parce qu'elle a vu que j'avais commencé à, voilà, à la justice, etc. Je lui dis, ok, j'ai vu la différence quand j'ai mis dans mes courriers association de parents d'élèves et quand je le mettais à mon propre nom. C'est là où j'ai compris en fait la puissance d'une association de parents d'élèves. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Deux jours après, je suis reçue à la mairie. Pour vous la faire courte, la directrice virée, deux animateurs changés d'établissement, des travaux faits dans l'établissement. La mère, pour la faire venir à l'école, ils ont dit qu'ils allaient interdire, que leur enfant, que sa fille serait interdite de cantine. Donc elle est venue et il s'avère que cette gamine vivait une situation incroyablement critique à la maison. Donc moi, ma demande, c'était qu'elle voie un psy en fait. Et ça a été une énergie folle parce qu'en parallèle, il fallait gérer papa qui voulait faire une descente à l'école, il faut gérer mamie qui veut choper les gamines, voilà. Donc, et je me suis dit, mais le système, tout à l'heure tu disais, Ami, c'était quoi le problème ? Le système peut te broyer en fait. Parce que tout a été fait pour que je me taise. Quand la directrice, je lui ai dit, je ne suis pas satisfaite par vos réponses, je vais écrire à la mairie, elle m'a dit, vous voulez l'adresse ? Et en fait, je me suis dit, c'est au-delà de l'insolence, c'est l'impunité, en fait. C'est tellement récurrent, c'est tellement normal. Les parents se plaignent. C'est pas qu'ils ne se plaignent pas, mais en fait, derrière, on n'outrepasse pas ce qu'on va nous dire. Voilà. Et je me suis dit, et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, donc, c'est comme ça que ça marche. Si on n'exige pas, si on ne cherche pas, on n'obtiendra pas justice. L'année d'après, je me suis inscrite, du coup, on a déménagé. J'ai été tout de suite présidente d'une association de parents d'élèves et je ne lâchais rien. Je ne lâchais rien. Et moi, mon objectif, ça a toujours été en fait, de transmettre cette information parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une association de parents d'élèves, les parents sont des électeurs. C'est pour ça, hein. C'est pas qu'ils ont peur de nous ou quoi, non. C'est parce qu'on porte une voix. Tu n'es pas satisfaite de ce que te propose la ville en termes d'éducation, tu peux potentiellement voter ailleurs. Donc c'est pour ça que, généralement, quand une association de parents d'élèves commence à exiger des choses, on obtient. Nous, on a obtenu des subventions, on a obtenu des travaux dans les rues, on a obtenu énormément de choses, en fait. Il faut se manifester. On se plaint, par exemple, sur les projets pédagogiques. Par exemple, là, on parle d'harcèlement. Ok. Tu as un livre, tu vois, qui n'est pas dans la bibliothèque de l'école, que tu souhaites proposer, à l'étude. Tu ne peux pas l'imposer. En France, l'enseignant est libre. Tu ne peux pas imposer ça à l'enseignant. Par contre, en tant qu'association de parents d'élèves, tu peux proposer un projet pédagogique et tu es financé en fait par la ville. Il suffit juste de suivre un formalisme et de dire, voilà, nous cette année, on a envie vraiment de mettre l'accent sur ça. Aidez-nous. C'est financé. Donc les parents, franchement, mais je ne les juge pas parce que j'étais comme ça. Moi, j'étais impliquée dans la scolarité de mes enfants, mais je n'étais pas impliquée dans la vie de l'école. Quand on parlait de réunion d'école, franchement, je me disais non, mais c'est bon. Mais après, il a fallu que je passe par la phase harcèlement pour voir, en fait, qu'on peut vraiment faire quelque chose pour l'école. Et des fois, c'est vrai que souvent on dit c'est l'école qui est responsable, mais sincèrement, des fois, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas aussi les moyens. Je ne veux pas dédouaner ou quoi, mais je sais que les animateurs, par exemple, qui étaient censés, dans le cas de mon fils, surveiller les enfants, ne faisaient pas le job, en fait.
Oui, mais après, dans ce que tu as dit, on entend plusieurs choses et j'aimerais que les uns et les autres puissent y réagir. Ça veut dire que tu as pointé du doigt une défaillance. Merci pour ce témoignage parce que je pense que beaucoup de parents vont se reconnaître dans ce que tu es en train de dire, ce que tu as vécu. Mais tu étais face à des adultes, des fois, comme tu dis, déconcertants par leur posture, des fois débordés. Et selon la posture que tu avais ou le statut que tu avais, et c'est ce que disent souvent les parents, quand on y va, on est même pas respecté en fait dans notre doléance. Qu'est-ce qui vous passe en tête là par rapport à ce que vous avez entendu dans ce témoignage?
Déjà, je veux répondre à la faute. À qui la faute? Pour moi, la faute, c'est la faute des adultes. Parce qu'on est face à des enfants et les enfants sont sous la responsabilité des adultes. Ils ne sont pas encore adultes. Ensuite, le témoignage d'Aoucha, ça résume et ça va dans le sens de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut observer une forme de déni, souvent, de la part des adultes qui sont en lien avec ces formes de harcèlement, avec ces cas de harcèlement. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que les adultes ne prennent pas leurs responsabilités. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité, on parlait de faute. Et ben pour moi, les adultes ne prennent pas leurs responsabilités. Qu'on soit chef d'établissement, on ne prend pas sa responsabilité. Qu'on soit commissaire, on ne prend pas sa responsabilité. Et qu'on soit parent, on ne prend pas sa responsabilité. Parce que lorsqu'on va dans un commissariat et qu'on ne prend pas au sérieux notre plainte, c'est compliqué. Le chef d'établissement, il va toujours nous dire « Non, c'est rien, c'est des amusements d'enfants », alors que notre enfant, il souffre. Et en tant que parent, et souvent, en fait, ce qui se passe dans les cas de harcèlement, c'est que le parent du harcelé veut souvent rentrer en contact avec le parent du harceleur.
Et on empêche ça. On entend souvent les parents, ils disent comme si on n'avait pas confiance en notre capacité en tant que parent à communiquer. C'est-à-dire qu'au début, c'est l'émotion qui va t'accueillir. L'émotion de comment tu accuses mon fils, ou l'émotion de ton fils m'a fait ou ta fille a fait. Mais après ça, il y a forcément deux parents qui ont enfanté, qui aiment leur enfant, qui leur veulent du bien, qui vont se rencontrer et se dire on fait quoi maintenant?
Exactement.
Mais il faut juste faire confiance.
Ah, je vais me faire l'avocat du diable pour le coup. Ça, c'est l'expérience de parents d'élèves. Je peux comprendre que parfois, on protège les parents de l'enfant harcelé des autres parents, parce que tous les parents ne sont pas dans le même cas de figure. Et souvent, ça se termine des fois devant les collèges ou devant les écoles, en bagarre devant les enfants.
Mais parce que manque de médiation. Ça veut dire que si
parce que
l'intermédiaire au milieu...
ne savent pas discuter.
Oui, mais non. Mais oui, certes, mais si au milieu, il y a un intermédiaire qui, là, pour le cas précis, est censé être l'école, fait cette médiation avec les familles, c'est-à-dire se forme à faire de la médiation avec des familles, ou fait appel à un professionnel qui est médiateur et qui a l'habitude de gérer les situations tendues émotionnellement parlant.
Mais là, le problème, c'est que l'école, elle est malade.
Voilà.
Ouais. Allez, ouais, c'est comme la chronique, on met les pieds dans la tasse, commence. Bouba, l'école est malade. Explique-toi.
L'école, elle est malade. C'est-à-dire que, comment dire, déjà, il y a tellement de dysfonctionnement qu'aujourd'hui, pour eux, l'harcèlement, c'est secondaire. Et c'est, moi, je pense que c'est ça, la réalité. C'est que, normalement, les professeurs devraient être formés par rapport au public auxquels ils sont confrontés, c'est-à-dire formés à toutes ces problématiques sociales par rapport à leur public. Tu parlais des animateurs. Moi-même, qui suis dans le monde de l'animation, de l'insertion sociale, j'en vois plein qui ne sont pas super bien formés. Tu vois, et voire même pas formés du tout. Et tu t'occupes d'enfants, tu es sur ton téléphone tout le temps.
C'est ça, exactement.
Même au niveau de leur posture, de leur parole.
La posture, comment ils parlent, ils insultent. Il y a tout un problème sur le plan du langage, de la sémantique. C'est secondaire, malheureusement, le harcèlement pour eux. Il y a des classes surchargées. Regarde, ce qu'ils nous ont fait, c'était à la rentrée, à nous parler. Après, c'est un autre débat. Il ne faut pas qu'on débatte sur ça encore, parce qu'on pourrait faire un long débat. Mais la baïa, tout ça, les vêtements, la tenue vestimentaire, alors que... Il y a des grands problèmes dans la...
Manque d'enseignants.
Il y a manque d'enseignants. Il y a des élèves qui ont cours une heure dans la semaine parce que tous les autres profs ne sont pas là. Parce que...
Mais dans ce que tu dis, je ne sais pas si c'est un problème secondaire ou si c'est un problème qu'on n'arrive tellement pas à gérer parce que démunis, est mis de côté mais pas avec l'envie de mettre de côté, parce qu'on en rencontre des enseignants. Et, avant de faire le plateau, j'ai été voir plein de professeurs en leur posant la question des enseignants. La semaine dernière, on a fait une rencontre où il y avait plus de 90 professionnels qui étaient assis pour réfléchir sur cette question. Mais la réalité, c'est que c'est multifactoriel, certes, mais en plus, c'est difficile à déceler. Et même quand tu as la définition, même quand tu sais, il faut l'identifier. Dans des établissements scolaires surchargés avec des adultes peu formés, voire pas formés, et quelques-uns qui sont formés, mais du coup à bout de souffle, vu le nombre de situations, est-ce que c'est réellement possible d'agir? Est-ce qu'on peut voir? Quand il y a 700 enfants pour 30 adultes, est-ce qu'on voit?
Excusez-moi, je pense que oui. Après, moi, je serais même partie, je rejoins un peu Bouba. Et je pense aussi même qu'on devrait intégrer le harcèlement scolaire
dans le programme,
mmh. Justement, comme tu dis, pour que l'harcèlement scolaire soit vraiment identifié par les enfants, qui puissent en parler, qui puissent mettre les mots dessus et qui puissent être capables de tout de suite, dès que ça part un peu trop loin, être capable de dire à l'adulte référent ou peu importe. Donc vraiment, je pense que, comme Bouba a raison, il y a un manque en fait dans l'éducation nationale, mais je pense que la solution, elle est très simple en fait. Vraiment l'intégrer dans le programme scolaire, et ça permettra même d'avoir, comme tu dis, des personnes qui pourront intervenir dans les classes, des experts qui vont expliquer aux enfants ce que c'est l'harcèlement scolaire, comment le combattre, comment en parler, et tout ça. Je pense vraiment que...
Évidemment, en une heure et demie, on n'aura pas le temps d'aller dans tous les recoins du harcèlement scolaire, mais en tout cas, les associations, voilà ce qu'elles disent, et j'aimerais avoir votre retour. Elles disent, et c'est vrai, il y a énormément d'initiatives de lutte et de prévention, d'actions concrètes à mettre en place pour lutter contre le phénomène, avec des professionnels de tous bords qui ont des solutions. Et pour autant, la porte d'accès à l'école reste close. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Bah moi, je dis que tu as trouvé une belle transition, voilà. Pour que je puisse mettre
les pieds dans le plat.
Mets
les pieds dans la tasse.
Les pieds dans la tasse.
Allons-y.
Parce que, en fait, moi, je voulais, et on l'a déjà abordé plus ou moins dans nos échanges, je voulais mettre en avant la responsabilité de l'éducation nationale. Tout à l'heure, Bouba disait que l'école était malade. Moi, je dirais que les institutions sont malades dans leur ensemble. Et moi, je voulais pointer l'école. Donc, moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi se réveiller que maintenant? Et pourquoi ce déni? Et pourquoi parfois renvoyer la faute sur les parents, alors que les enfants sont sous la responsabilité, le plus souvent, clair du temps, des adultes étant dans les établissements scolaires? Je donne juste un exemple. Certaines familles qui ont relevé des cas de harcèlement se sont vues recevoir des lettres du rectorat leur demandant d'arrêter, en fait, de faire certaines démarches. Oui, mais la ministre, elle a pris la parole. Parce qu'il y a eu un tollé. Ça a fait un tollé, donc c'est pour ça qu'ils ont pris la parole. Mais ce sont des collègues à eux qui ont envoyé les courriers. Donc, pourquoi se réveiller que maintenant, et pourquoi ne pas prendre leurs responsabilités?
Alors, qui se lance, Isabelle?
C'est vrai que c'est un sujet très, très complexe, mais je vais rejoindre tout le monde sur... le de la responsabilité. Et je suis désolée, mais le harcèlement, à partir du moment où ça concerne des mineurs, oui, les adultes, ils sont responsables. Oui, c'est à eux de rectifier le tir. Oui, c'est à eux de voir qu'il y a quelque chose de mal. Maintenant, je rejoins Fatou sur une chose. À l'époque, dans les écoles, on avait ce qu'on appelle l'éducation civique. Alors, OK, ça fait pas tout. Mais quand on avait l'éducation civique, on savait quelles étaient les bonnes choses ou pas les bonnes choses pour être un bon ou pas un bon citoyen. Donc je pense qu'il est temps de remettre un peu toutes ces spécialités qu'il y avait avant à l'école pour remettre l'éveil dans la tête des enfants et la conscience. Il faut réveiller la conscience des gens pour qu'ils puissent
faire... Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça, Isabelle? Parce qu'aujourd'hui, on est face aussi à des parents qui font preuve d'une certaine violence, virulence, et qui remettent en question... des choses. Par exemple, quand on parle d'éducation civique, y a plein de parents qui courent au scandale quand on veut parler de relations affectives, alors que les relations affectives, c'est du harcèlement aussi. Mmh. Si tu t'aimes, si tu apprends à aimer l'autre, si tu sais interagir avec tes pères, et les gens s'opposent.
Il faut que les adultes y comprennent qu'en fait, il faut qu'ils arrêtent de transposer tous leurs troubles, tous leurs problèmes sur leurs enfants. De base, l'éducation nationale, elle est là pour donner l'éducation, l'enseignement, en tout cas, à nos enfants pour pouvoir s'en sortir, lire et écrire. À partir du moment où il y a des choses qui font entorse à ça, eh ben, il faut que les parents et les enseignants aillent ensemble pour lutter contre ça. Il faut le faire ensemble. Il ne faut pas le faire chacun de leur côté. Et c'est pour ça que j'encourage, je suis désolée, je vais faire une aparté là-dessus, j'encourage les parents, dès que vous scolarisez vos enfants, à être parents d'élèves. Même si vos enfants sont à la maternelle, soyez parents d'élèves. Il faut savoir que lorsque vos enfants sont à la maternelle et au primaire, vous avez encore plus de pouvoir que lorsqu'ils arrivent au collège, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses en place. Vous pouvez donner des moyens aux enseignants pour qu'ils puissent faire des sorties pédagogiques avec vos enfants, pour qu'ils puissent mettre des vrais programmes avec de vraies actions, avec votre appui. Et ça, on en a besoin. Ça fait 12 ans, moi, que je suis parent d'élèves. Quand j'ai commencé, on était deux.
C'est quand les élections, c'est le 17?
Non, c'est, alors la plupart sont déjà passées. Moi, le 12, il en reste 13. Encore, voilà, il en reste encore un peu pour peut-être quelques structures qui ont commencé plus tard. C'est en début d'année. Après, il faut savoir qu'il y a deux positionnements en tant que parent d'élève. On peut être parent d'élève OCA, c'est-à-dire qu'on fait partie du bureau, ou on peut être tout simplement parent d'élève actif, c'est-à-dire qu'on fait partie de cette association. Du coup, on peut avoir un retour. Combien de parents aujourd'hui ont des comptes rendus sur ce qui se passe en réunion? Or que être, c'est important de
mais
savoir
combien de
ça.
Parents répondent à ces comptes rendus?
Eh bien, elle est là, la question. Donc, en fait, la question, elle est comment chacun, vous vivez votre parentalité auprès de vos enfants? Jusqu'à où vous êtes inclusif dans la vie de vos enfants? Oui, l'école a une responsabilité. Oui, les enseignants ont une responsabilité. Mais vous, vous les avez mis au monde, ces enfants. Donc, c'est à vous d'être le prémisse de tout ce qui va se passer dans leur vie.
Pour compléter notre double chronique avec... l'homme au béret qui est à ma droite.
Alors on continue à mettre les pieds dans la tasse.
Il y a peu, une maman fit un tollé sur les réseaux. On la vit accompagner son fils, très mal à l'aise, s'en aller humilier un enfant, car ce même enfant se serait chamaillé avec son fils. Selon elle, elle réglait un problème d'harcèlement par un harcèlement, pour le coup, plus brutal. Certains êtres humains ont tendance, ont malheureusement tendance à croire que l'on doit guérir un mal par un plus grand mal. En vrai, comme dirait l'homme au béret à ma droite, le fait que cet acte ait été filmé, pour moi, c'est une leçon de vie.
Exactement.
Pour ceux qui agissent de la sorte, pour ceux qui ont tendance à agir de la sorte, et pour ceux qui aspireraient à agir de la sorte, si jamais leur enfant se retrouverait dans une situation similaire ou dans une situation qui s'en rapprocherait. Pour moi, c'est une vidéo de prévention, en vérité. Pour ces nouveaux parents, qui sont des parents de notre génération, des trentenaires et des quarantenaires, car il y en a qui aspireraient, qui agissent de la sorte, mais qui ne sont pas filmés. Et je ne prétends pas que ce parent mérite ce qui lui est arrivé, parce que par la suite, malheureusement, il y a eu une succession d'insultes. Il y a eu un comité d'accueil qui l'attendait en bas de chez elle, qui l'insultait et qui la filmait. Mais malheureusement, ce ne sont que les malheureuses conséquences de ses actes. D'après les dires, il semblerait que son fils ait été harceleur. Le harceleur zéro. Et comme je le répète, on ne guérit pas un mal par un plus grand mal. Et on ne gère pas un problème d'harcèlement par un harcèlement plus brutal.
Mmh. Surtout que là, il y a violence d'un parent sur un mineur. Il y a tellement de choses dans... Merci, t'as vraiment mis les pieds dans la tasse avec un cas d'école. Je vous propose, pendant que vous réfléchissez à ce qui va être dit là, d'entendre peut-être le témoignage de Laurence qui explique comment elle accompagne les familles, parce qu'il y a aussi des choses magnifiques qui peuvent sauver des vies. On écoute ensemble.
En général, c'est comme ça que ça se passe. Je reçois d'abord les parents et l'enfant. On dialogue ensemble. Ensuite, je dialogue uniquement avec l'enfant pour que lui me donne sa version et qu'il me raconte des choses parfois qu'il n'a pas racontées à ses parents. Ça D'accord. se passe aussi comme ça. Il va me dévoiler des choses. Je vais l'amener justement à avoir confiance en moi pour me dévoiler ces choses-là. Et ensuite, moi, je lui explique ce que je peux lui apporter justement. lui montrer que justement il a beaucoup de choses à l'intérieur de lui qui vont lui permettre de gérer plus facilement son stress, ses angoisses, de retrouver justement cette confiance qu'il a perdue et de s'apercevoir qu'il a énormément de force en lui pour pouvoir et qu'il ne l'imagine même pas. Et souvent, l'enfant, bah, il commence déjà à avoir une petite lueur. Alors, une toute petite lueur au début.
Une petite lueur. Je pense que beaucoup en ont besoin. Et après, les pieds dans la tasse, là. Avec cet exemple, c'était important de se laisser quelques minutes pour réfléchir à nos réponses. Parce que, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu la vidéo, mais c'est super violent ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on la visionne. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vous a renvoyé et qu'est-ce qu'il est urgent de travailler?
Moi, cette vidéo, elle m'a choquée. Mais il faut savoir que la personne qui est sur la vidéo, c'est une amie à ma sœur. Donc, elle m'avait expliqué un peu que le petit qui se fait gifler.
Violemment giflé.
Ouais. Harceler le fils de la dame. Et qu'en fait, on n'avait pas toute l'histoire. Mais comme il dit, en fait, oui, c'est le petit qui est avec sa maman aussi était un harceleur à la base. Mais bon, en tout cas, l'histoire qu'on avait et comment ma soeur m'a raconté, c'était cette histoire d'harcèlement. Et moi, c'est vrai que ça m'a vraiment choquée. Mais parce que oui, c'est un enfant qui se fait frapper. Elle est partie très loin aussi.
Elle l'a humilié, l'a rabaissé.
Ouais, elle est partie très loin et tout ça. Mais après, moi, comme tout à l'heure, comme je disais, moi, je suis dans une posture où je vois tellement de parents qui pleurent leurs enfants aujourd'hui, qui ont pendant des mois et des mois frappé aux portes de tout le monde et qui sont tellement désespérés qu'ils peuvent arriver malheureusement à cette situation-là. Et je me suis dit, mais est-ce que si ça m'arrivait à moi, est-ce que je serais capable de partir, d'agir comme cette maman? Donc je me posais la question, je me dis vraiment si je vois mon enfant qui souffre et qui est dans un cas d'harcèlement aussi profond, parce qu'on a vu ce jeune homme qui, le lendemain de la rentrée, s'est suicidé. Ce jeune garçon-là, je ne sais plus de quelle vie il est, parce qu'il était dans un désarroi tellement profond qu'il s'est dit mais ça a déjà commencé et là, je sais que ça va recommencer en fait. Il n'a tellement pas supporté qu'il s'est suicidé et je me dis mais... est-ce que moi, en tant que maman, je pourrais agir comme ça, en fait? Comme je vois que personne ne fait rien, personne n'agit, et mon enfant souffre et je ne veux pas qu'il suicide, est-ce que moi, je serais capable d'agir comme ça?
Est-ce qu'elle ne s'en prend pas, la mauvaise personne? Parce que déjà, un, elle s'en prend un enfant. Deux, elle humilie, elle le frappe de façon publique. Mais l'émotion qui traverse un parent face à la violence que subit par son enfant, on ne peut pas la décrire. On n'est pas à la place de cette maman, etc. Maintenant, le questionnement général, il est sur la prise en compte, en charge des souffrances émotionnelles, des enfants harcelés, harceleurs, des témoins des fois aussi qui souffrent, du parent, et la capacité à s'outiller et aller chercher de l'aide pour éviter d'en arriver à cette tragédie. Parce que la maman, dans son émotion, c'est comme si c'était un coup de folie. Parce qu'on ne peut même pas imaginer et penser qu'on puisse faire ça à un enfant, mais cet enfant, il a des parents.
Mais là, on est encore dans le cas où les parents n'agissent pas.
D'accord. Mais du coup, est-ce qu'en frappant l'enfant, on solutionne? Et c'est pour ça que cette deuxième partie-là, on est encore ensemble pour un peu moins de 10 minutes. Mais c'est vraiment de mettre en lumière des initiatives qui existent et de trouver des pistes par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc, dans ce qu'on a dit, j'aimerais attirer votre attention sur l'information. Ça manque d'information, de sensibilisation, de moyens d'agir, de prise de position et de responsabilité. Qu'est-ce que là, déjà, est-ce que sur vos différents territoires, parce qu'Isabelle, toi, tu es à Bordeaux, est-ce que vous avez des initiatives, vous avez vu des choses qui avaient l'air de fonctionner, un peu comme ce qu'on a entendu, Laurence, la sophro, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que la sophrologie, ça peut aider un enfant. Elle expliquait, il y a des cas d'enfants qui ont trouvé tellement de ressources en eux que le harcèlement, ça glisse sur eux. Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives?
Moi, j'en ai. Par exemple, mes filles sont dans un cursus privé. Du coup, ça ne s'appelle pas la FCPE à ce sein-là, ça s'appelle l'appel. Et à l'appel, ils ont un numéro où les parents peuvent téléphoner s'il y a un problème. Donc, ils peuvent avoir des éducs spécialisés, des psychologues. Et du coup, ils peuvent appeler dans l'anonymat ou pas, s'ils veulent dire leur nom, dire dans quelle école ils sont, pour que le problème, du coup, rentre en, soit pris en considération à plus grande échelle. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent et du coup, tout le monde est témoin, mais du coup, tout le monde est traumatisé, mais personne n'a parlé. Donc, il y a ça. Donc, normalement, la plupart des appels longs, c'est vrai que moi, je suis sur le secteur de la Gironde, mais je pense qu'en Île-de-France, ça se fait aussi. Et après, alors, il y a un guide qui a été fait en Gironde avec aussi l'aide des enfants. C'est un guide sur le harcèlement, voilà, et un peu quel comportement tenir et la voix des enfants. Et moi, j'encourage les parents aussi à emmener leurs enfants dans ces solutions-là. C'est-à-dire qu'ils sont à leur place d'enfants, mais qui cherchent les solutions pour résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Et ça se fait dans les conseils départementaux de jeunesse. Faire partie de l'école, c'est aussi ça. Donc, investir nos enfants dans des programmes qui leur seront pour eux florissants, en fait. Parce que bah, là, ils ont aussi la face cachée de la pièce, en fait.
Fatou, est-ce que tu as un exemple ?
Moi, je vais prendre l'exemple de notre association avec Awisha, Ode à la littérature. C'est une association qui promeut auprès des jeunes et des adolescents littérature, écriture, poésie, mais surtout l'art de l'éloquence, en fait. L'importance des mots, l'importance de s'exprimer, de comprendre ses émotions et surtout de ne pas avoir peur de le dire, en fait. On a organisé plusieurs événements dont Ode à la littérature ouvre sa scène, où les enfants ont monté, chanté, rappé. Et on avait vu l'impact que ça a eu sur eux, comment ça leur a donné confiance et le fait de pouvoir s'exprimer avec leurs propres mots pour certains, parce qu'il y avait des jeunes qui ont fait du slam, qui ont écrit leurs textes. Et voilà, c'est vraiment, avec cette association, on permet vraiment aux enfants de comprendre l'importance des mots et surtout de les utiliser.
Ok. Ouais. Awisha, du coup, tu es en plus autrice et tu as une maison d'édition. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des ouvrages? Parce qu'il y a plein de choses qui se font. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi?
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout à l'heure, on disait que la responsabilité était collective et collective. Mmh. Les solutions le sont également.
Exactement.
Tu as cité la sophrologie. Fatou Mata a parlé de l'association Ode à la littérature. Moi, je rebondis également sur le livre. Outil qui est sous-estimé, mais beaucoup trop sous-estimé. C'est un outil d'éducation de masse, le livre, surtout auprès des enfants et des adolescents. Et sincèrement, on n'y a pas suffisamment recours. Je pense qu'il y a énormément de livres qui existent. Et on a même un ouvrage qu'on a dans la chronique qui a été fait par un enfant, recommandé par une enfant, une collégienne, qui parle d'harcèlement scolaire. Et elle l'a chroniqué, pourquoi ? Parce que ça lui a permis, en fait, vraiment d'avoir la définition d'un harcelé, d'un harceleur, du témoin, et d'avoir une histoire autour où elle a pu se projeter, en fait, dans quelle situation elle se trouvait, elle. Là, j'ai la chronique sous les yeux, ça s'appelle La Team Collège. Il y a d'autres ouvrages aussi, Ce que j'aimerais te dire, par Émeric Le Breton, ou Le harcèlement scolaire. En tout cas, il y a de quoi faire. Pour les personnes qui n'aiment pas acheter, allez à la bibliothèque de votre ville, c'est gratuit. Je pense que c'est également important, pour rebondir sur les associations de parents d'élèves, que les parents se permettent d'entrer en contact avec les enseignants pour proposer ces ouvrages-là. Moi, personnellement, j'interviens dans le cadre d'ateliers lecture. Et quand je lis un livre que j'ai écrit qui s'appelle « La sortie scolaire », qui parle d'un enfant qui subit des moqueries, c'est terrible parce que j'ai des dizaines de témoignages en direct comme ça des enfants. Et en fait, ils ont besoin d'espace pour exprimer cette souffrance-là. Ils n'attendent que ça, en fait, qu'on leur demande. Donc, il faut ouvrir aussi des espaces où les enfants puissent collectivement parler de ça et qu'on leur tende la main, en fait.
Merci à Awisha. On arrive à la fin de cette émission. On va rendre l'antenne dans 2 minutes. Chers parents, le harcèlement scolaire est un sujet important qui peut toucher nos enfants. Il est essentiel d'être informé et de préparer les enfants dès le plus jeune âge à travailler sur leurs émotions. Vous pouvez nous retrouver juste après cette émission en échange, dans les messages, témoigner vous aussi. Mais ce qu'on souhaite vous dire, c'est qu'il y a des signes et des manifestations du harcèlement scolaire. Sachez reconnaître certains signes. Ce n'est pas une liste exhaustive. Votre enfant semble triste ou inquiet. Il évite l'école ou fait preuve d'anxiété. Des blessures physiques inexpliquées, changement dans son comportement. Vous avez des choses à faire. Écoutez votre enfant, écoutez-le sincèrement. N'essayez pas d'interpréter, rassurez-le, allez chercher de l'aide. Psychologue, autre spécialiste pour un accompagnement complémentaire. Prévenez l'établissement scolaire. Les établissements scolaires ont le protocole phare. Exigez qu'il soit mis en place. Alertez. Mais d'abord, recueillez. Il existe bien des solutions. Surtout, le plus important, finalement, n'est-ce pas, de prendre position et de prendre nos responsabilités. Nous étions autour d'un thé. L'eau a refroidi. Nous allons rendre l'antenne. Merci à tous.
Merci.
Merci.
Merci à toi. Merci.
Yeah.